Il est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas ? Ça fait du bien et je crois que le Seigneur nous parle. Lorsqu'on le loue, il y a des choses qui s'inscrivent en nous, il y a des choses qui nous travaillent et en même temps, on peut proclamer qui est Dieu, qui il est pour nous. Maintenant, nous allons passer au temps de la parole et je demande à Louis Grandjean de venir. Louis Grandjean travaille, m'a-t-on dit, comme administrateur au GBUE. Je lui ai demandé qu'il se présente lui-même, donc il va le faire. Mais avant, je vais prier pour lui et on va mettre en place le micro. Je crois que c'est ça que vous voulez. Hein. Alors, on va prier. Bien, notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce qu'après avoir loué ton nom, après avoir proclamé qui tu es, et nous sommes encore loin du compte, bien nous allons entendre ta parole. Et Seigneur, je te prie de bénir notre frère qui va nous la porter ce matin, de le bénir lui et sa famille, et de garder sa famille, Seigneur, de tout mal. Merci aussi d'ouvrir nos cœurs, que nos esprits puissent être ouverts, que nous puissions recevoir au fond de nous-mêmes ce que tu as nous donné. Seigneur, nos intelligences connaissent beaucoup de choses, mais notre esprit a besoin d'être touché pour que notre intelligence fonctionne comme tu l'entends. Alors on demande que ta parole, Seigneur, soit agissante par l'esprit. Amen.
Voilà, alors j'espère que ça fonctionne, que vous m'entendez. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin. Il y a quelques mois, j'ai reçu un mail de Claude qui me disait « Voilà, on aimerait t'inviter à prêcher à Villars. » Et puis, en fait, c'est un risque d'inviter quelqu'un de l'extérieur comme ça à prêcher. J'ai croisé Claude plusieurs fois parce qu'avec les GBU et l'église de Villars, on organise les conférences Sciences et Foi en automne. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de venir dans cette église. Claude me connaît un petit peu, mais il ne sait pas ce que je vais dire ce matin. Alors, voilà, c'était un risque qu'il a pris. Et c'est un risque d'autant plus grand que je vais donner la parole à d'autres personnes, des étudiants qui vont donner quelques témoignages pour venir aussi illustrer le message. Alors voilà, merci pour l'invitation, je suis content d'être là. Au niveau de la présentation, donc qui suis-je, moi qui ai été invité ? Je m'appelle Louis Grandjean, ça a déjà été dit. Je travaille au GBU depuis 2009, et puis ça faisait déjà un petit moment avant que je travaillais parmi les étudiants ici à Lausanne. Plus important que ça, je suis marié et puis j'ai 3 enfants, la plus grande a 4 ans et puis les autres sont répartis plus jeunes, évidemment. Et puis, voilà, mon but ce matin, c'est de parler d'un texte de la Bible, on va essayer de l'étudier ensemble, de comprendre ce qu'il peut nous dire encore aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi invité les étudiants, c'était pour donner un peu un aperçu comme ça de ce qui se passe sur le campus. Je travaille avec les étudiants parce que c'est une population que j'aime les étudiants, j'aime les voir grandir avec Dieu. Et puis quand on m'invite à parler, j'aime aussi qu'eux puissent exprimer ce qu'ils vivent, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être motivant. Et puis je vous encourage, pendant qu'ils parleront, à aussi réfléchir dans vos vies, comment est-ce que ce que ces étudiants mettent en pratique, vous pouvez le mettre aussi en pratique dans votre contexte, et dans vos situations. Alors ça a déjà été annoncé sur le programme et à différents endroits, je vais prêcher ce matin sur un texte de 2 Timothée. Alors pour ceux qui ont une Bible, c'est un bon moment pour la sortir. 2 Timothée, dans le premier chapitre, on va lire les versets 6 à 14. Et puis c'est là qu'on va voir si la technique fonctionne. Oui, ça fonctionne, super. Alors, donc 2 Timothée 1, les versets 6 à 14. C'est pourquoi... Alors je vais déjà faire une pause ici. Quand on lit un texte qui commence comme ça par « c'est pourquoi », c'est que l'auteur fait référence à ce qui vient avant, donc ça vaut peut-être un tout petit peu la peine de donner du contexte. Alors au niveau du contexte général, donc de la lettre, Paul à ce moment-là, quand il écrit, il est emprisonné à Rome. Et puis cette lettre de Timothée, dont on va lire un extrait aujourd'hui, c'est le dernier écrit qu'on a de Paul. Probablement qu'il l'a écrit vraiment sur la toute fin de sa vie. Et puis, c'est le début de la lettre, hein, c'est le premier chapitre, j'ai sauté un petit bout au début, où Paul rappelle la foi de Timothée, qui n'est pas une foi qui est apparue comme ça chez Timothée, venu de nulle part, mais elle habitait déjà ses grands-parents, ses parents, et puis voilà, c'est venu aussi, c'est aussi une foi qui est vivante dans la vie de Timothée. Et puis Paul s'appuie sur cette foi que Timothée a pour, parler dans, pour écrire la suite de ce texte. Donc, c'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordé en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour, qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Voilà, donc on va lire jusque-là. Paul continue évidemment sa lettre. Vous pouvez lire la suite à l'occasion. Et puis, comme souvent chez Paul, le texte il est un peu compliqué à démêler. Il y a beaucoup de phrases subordonnées, des « qui », des « que ». Et puis, quand on lit le texte comme ça une première fois, peut-être surtout un dimanche matin, on a peut-être de la peine à voir exactement comment ce texte est construit. Mais si je reprends les éléments principaux et puis que j'essaie de résumer un peu ce que j'ai compris moi de ce texte, Paul dit à Timothée, Dieu t'a équipé avec son esprit pour accomplir une mission. Alors il ne faut pas avoir honte de ce témoignage que Dieu te demande de rendre, parce que ce Dieu, il nous a sauvés, il a réduit la mort à l'impuissance, et puis il a fait ça pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on est doué, mais parce qu'il a choisi de le faire et puis il nous a appelés pour le faire. Et puis voilà, c'est par cet appel que j'accepte de souffrir, dit Paul. Donc on peut voir un peu deux aspects comme ça. Il y a d'abord, d'une part, le don de Dieu, dont Paul parle tout au début du texte, que Timothée a reçu quand Paul a prié pour lui. Et puis ensuite, il y a le désir et puis les capacités qui découlent de cet esprit que Timothée a reçu pour annoncer l'Évangile. Et puis aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte, donc c'est pertinent de parler du Saint-Esprit et de la manière dont il peut nous encourager à annoncer l'Évangile, parce que c'est ce qui est arrivé à la première Pentecôte. Les disciples étaient rassemblés, ils ont reçu le Saint-Esprit, et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis pour aller prêcher l'Évangile à des gens qui ne le connaissaient pas encore. Et dans le texte aussi, Paul rappelle à plusieurs reprises à Timothée le rappel commun, c'est enseigner l'Évangile, transmettre le message qu'ils ont reçu. Et puis dans ce texte, on voit de manière très spécifique l'esprit qui devrait nous motiver, l'esprit qui devrait nous animer pour faire ça. Et donc aujourd'hui, je vais me concentrer en particulier sur le verset 7. Donc ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc on voit, hein, Paul il donne une liste comme ça, force, amour et sagesse, et c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les épîtres de Paul. Et puis il y a certaines de ces listes qui sont restées un peu célèbres comme ça. Il y a les dons de l'esprit, les fruits de l'esprit, les vertus, les trois vertus foi, espérance et amour. Il y a l'armure du chrétien qui sont aussi assez connues. Il y a les cinq ministères. Et puis voilà, Paul fait souvent ça dans ses lettres. Il parle comme ça et puis tout d'un coup il fait une liste comme ça en listant différents aspects. Et puis là on a une telle liste, donc force, amour et sagesse. Et quand Paul fait ça, en général, c'est pour montrer l'étendue de ce dont il est en train de parler. Par exemple, les fruits de l'esprit, ça montre que ce n'est pas seulement un aspect de notre caractère qui doit être travaillé, mais l'entier du caractère. Et puis, ça donne aussi un équilibre. Le fait de faire une liste, de nommer plusieurs éléments, ça permet d'équilibrer et puis de bien comprendre ce dont l'auteur est en train de parler. Et donc, dans notre verset, aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi Paul insiste particulièrement sur ces trois aspects, donc force, amour et sagesse, et puis comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans nos vies aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Certaines traductions parlent de puissance. On comprend, je pense, l'idée dont parle Paul. Dans le texte, Paul reprend ce terme-là juste après, en disant que c'est sur elle que Timothée peut s'appuyer. Si je reprends le... souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Donc c'est cette même force. Et puis ensuite, Paul explique que la mort a été réduite à l'impuissance par la puissance de Dieu. Dans Éphésiens, Paul y dit aussi que la puissance qui se manifeste en nous, c'est la même puissance que celle qui a permis de ressusciter Jésus et puis de le faire monter jusqu'au ciel. Là, dans mes notes, j'ai mis « waouh », parce que c'est une puissance forte comme ça, puissante. Alors, et puis, c'est ce même esprit de puissance qui peut se manifester en nous. Et puis, c'était important pour Timothée de se rappeler ça, juste de nouveau au niveau du contexte. Il faut se rappeler qu'à l'époque de Timothée, il y avait beaucoup de persécutions, les chrétiens étaient minoritaires, ils étaient mal vus. Et puis, les forces qui s'opposaient à l'Évangile pouvaient avoir l'air puissantes et efficaces. Et puis, c'était important pour Timothée de se rappeler, l'esprit que Dieu m'a donné, c'est un esprit de force. Ce n'est pas simplement des théories, des idées, des choses desquelles on peut débattre, et puis voilà, mais ça peut avoir une influence dans le monde concret, sur la réalité. Dans 1 Corinthiens, Paul dit ça, il dit que ses prédications ne reposaient pas sur des discours, mais sur une démonstration de puissance. Alors, souvent on comprend ça en imaginant des miracles, des choses surnaturelles qui se produisent, et puis c'est possible, mais dans tous les cas, je crois vraiment que ce qui est important, c'est de se rappeler, l'Esprit de Dieu est un esprit qui agit sur la réalité, qui peut modifier la réalité. Il y a des gens qui sont malades qui peuvent être guéris, des gens qui sont prisonniers qui peuvent être libérés, prisonniers de plein de choses. Il y a une manière de penser qui peut être transformée aussi, etc. Dans le texte, on peut voir deux fois, Paul parle de la honte. Et puis les deux fois, le remède proposé, c'est de se rappeler qui est notre Dieu et pourquoi on croit en lui. Et puis on croit en lui parce qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Alors, je vais inviter le premier étudiant, donc Simon. Je te laisse peut-être juste dire ce que tu étudies et tout ça, et puis ensuite ce que tu veux dire.
Ah, bonjour, en fait c'est vraiment une immense grâce. Et j'aimerais remercier juste Louis, en fait aussi Claude qui est mon voisin. Et vous, en fait, qu'on puisse être ici, en fait c'est vraiment une grâce de A7, ce qu'on peut témoigner en fait. Et moi je vais rapidement dire quelque chose sur la force. En fait, Martin Luther fameusement, il disait une fois, il faut que je prêche l'évangile à moi tous les jours, sinon je l'oublie. Et en fait, un bon moyen de ne pas oublier l'évangile, c'est de le partager plus loin en fait. Parce que quand je le partage avec Louis, en fait je dis à Louis, Christ est mort pour moi, et en même temps je suis en train de dire Simon, Christ est mort pour moi il y a 2000 ans en fait. Et en fait, nous les chrétiens, on est non seulement sauvés par l'évangile, on est justifiés, sanctifiés par l'évangile, et c'est un évangile de grâce. On est appelé à témoigner d'un évangile de grâce en fait, grâce de A à Z en fait. Non seulement on est sauvés par la grâce, mais on est aussi justifiés, sanctifiés par la grâce, et tout ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est par la grâce. Et en fait, la grâce, qu'est-ce qu'elle ? Elle témoigne de deux choses, tout simplement. Elle témoigne de la puissance de Dieu, de sa force, et en même temps, elle témoigne de ma faiblesse, en fait. Elle témoigne tellement de ma faiblesse, et quand je partage Christ plus loin, donc quand je partage l'évangile avec quelqu'un d'autre, avec lui, je le partage avec moi-même, et je me rappelle, en fait, ma faiblesse, et je me rappelle la puissance de l'évangile, en fait. Et en fait, et moi, j'ai vraiment... en fait, la Bible nous appelle à se réjouir de notre faiblesse et à se réjouir de sa force, en fait. Et c'est assez marrant, en fait, parce que sa force peut que se manifester dans notre faiblesse, en fait, si on laisse la place à notre faiblesse. Et peut-être juste pour dire maintenant, pour illustrer ce que je dis, moi, je suis en cinquième année à l'Université de Lausanne, j'ai énormément à cœur l'évangélisation et l'évangile. Il y a 2 ans en arrière, j'ai commencé à étudier la philosophie pour me former indirectement dans le domaine de l'apologétique, dans la défense de la foi. Et en fait, moi, j'essaye, par la grâce de Dieu, de ramener tous les séminaires que j'ai en philosophie à Jésus-Christ, parce que Paul dit en Colossiens, quand Jésus-Christ s'en cachait, tous les trésors de la sagesse, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces séminaires? Des fois, il faut tisser des liens assez loin pour ramener les choses à Christ. Ça marche par la grâce. Et en fait, à chaque fois, même si je sais les choses, même si je suis... ouais, Dieu nous a donné des capacités intellectuelles. Je tremble comme une feuille quand je présente, en fait. Parce que je sais, mes parents sont tellement faibles et tout va dépendre en fait de sa puissance. Et c'est vraiment merveilleux déjà ce que Dieu a fait jusqu'à présent. Et je crois qu'il y a juste un énorme potentiel en fait. Et en fait, c'est contagieux quand les gens voient, qu'on témoigne de notre faiblesse. Et on amplifie la grâce et sa force. Voilà, ça c'était pour ce point-là. Merci beaucoup.
Merci Simon. Donc, la force de Dieu qui s'exprime dans notre faiblesse et puis aussi au travers des difficultés qu'on peut vivre et tout ça. Et Paul en parle dans le texte qu'on a lu. Et puis Paul aurait pu s'arrêter là pour parler de l'esprit, hein, parler de cet esprit de force, et puis continuer à exhorter Timothée, à l'encourager, à aller de l'avant. En plus, Timothée, il était jeune, donc on pouvait juste lui faire un message qui l'encourage et qui lui fait du bien et qui lui dit de foncer. Mais Paul ajoute encore deux éléments, et puis on va voir pourquoi. Alors l'amour. Quel lien y a-t-il entre l'amour et la proclamation de l'Évangile? Pourquoi est-ce que Paul rajoute ça tout d'un coup? Alors moi je vois déjà deux liens rapidement comme ça. Le message de l'Évangile commence par l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour le monde, que Dieu a pour chaque homme, chaque femme, c'est la raison pour laquelle Dieu est venu nous chercher, la raison pour laquelle il a donné son Fils. Il a démontré cet amour en donnant son Fils alors que nous étions encore pécheurs. Dans le verset 9, hein, dans le texte qu'on a lu, c'est écrit « Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres ». Mais à cause de son propre plan et de sa grâce. Et puis, Dieu nous a aimés le premier, et c'est ça qui nous rend capables de l'aimer à notre tour. Par nous-mêmes, on ne peut pas produire de l'amour si Dieu ne nous aime pas en premier. Et puis, deuxièmement, un deuxième lien entre la proclamation de l'Évangile et l'amour, c'est que l'amour est ce qui devrait nous motiver, c'est ce qui devrait nous pousser à proclamer l'Évangile. D'abord, l'amour pour Dieu et pour son œuvre. Si j'aime Dieu, eh bien, j'aurais envie de parler de lui naturellement. Et puis aussi l'amour pour notre prochain. Si j'aime mon prochain, ben je vais aussi lui parler de ce Dieu extraordinaire que je connais et qui peut faire des miracles dans sa vie. On connaît tous, ou disons, beaucoup de gens connaissent le texte d'1 Corinthiens 13 où Paul parle de l'amour. Et puis il dit, entre autres, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est qu'on peut faire toutes ces choses-là sans amour. Et puis c'est aussi pour ça que Paul rajoute, l'esprit qu'on a, ce n'est pas seulement un esprit de force, mais c'est un esprit d'amour. Sans amour, on peut fonctionner, on peut faire beaucoup de choses. Ce qui risque de rester dans notre évangile, c'est surtout du légalisme, donc des règles à suivre, peut-être des exercices spirituels qu'on fait même régulièrement avec beaucoup de motivation, peut-être des lectures qu'on va faire pour augmenter notre connaissance. Mais ce qui risque de rester aussi, c'est un peu la crainte du jugement, comme ça. Je vais devoir faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu parce que l'amour est absent de l'équation. Ou bien alors, ce qui peut aussi rester, si on a seulement un esprit de force et puis que l'amour diminue comme ça, c'est une tentation de rechercher la puissance pour elle-même. Des signes impressionnants ou bien une influence qu'on peut avoir sur les gens si Dieu agit au travers de nous, et puis ça va nous donner de l'importance. Et puis, ça, c'est évidemment pas une bonne motivation pour partager l'évangile. Et puis, ça peut être assez toxique, en fait. Voilà. Et c'est le mauvais moment pour inviter Elisa parce que je viens de dire le mot toxique, mais j'invite quand même Elisa à parler de comment elle vit cet amour par rapport à ses camarades aussi. Tu peux aussi dire ce que tu fais là.
Trop bien. Salut, Elisa, troisième année de psychologie à Lausanne. à l'université. Et, ouais, c'est impressionnant de voir dans ce passage, c'est écrit « Nous avons reçu un esprit d'amour ». Et je dois admettre que moi, j'ai l'impression d'être née avec un cœur sec, en fait. Et que l'amour que j'ai aujourd'hui, il m'a vraiment été donné par Dieu. Il n'y a rien qui vient de moi-même. Plusieurs le savent, d'entre vous le savent. Quand j'étais petite, j'ai passé plusieurs années de mon enfance seule, en fait, parce que j'avais pas d'amitié, parce que j'avais un immense mépris pour les autres élèves de ma classe. Et j'étais vraiment née avec un cœur sec, comme ça, avec un cœur qui avait beaucoup de mépris et très peu d'amour pour les autres. Et plus j'ai commencé à connaître Christ, plus cet amour il s'est développé. Et plus cet amour s'est développé, plus j'ai commencé à parler de ma foi, en fait. C'est vraiment extrêmement lié dans ma vie. Et je vais vous donner un exemple concret, comme ça, ça va vous parler. Et, dernièrement, je pense que c'était il y a 6 mois, j'étais en train de prier avec ma colocataire qui est dans la même classe que moi à l'université. Et puis là, elle dit « Ah, on pourrait prier pour Freda ». Puis moi, je suis là « Oh non, oh non, pas elle ». Et je ressentais encore ce mépris et cette indifférence comme je le vivais dans mon enfance. Et je me disais « Oh là là, j'ai tellement pas envie de prier pour elle ». Bon, j'ai accepté parce que, voilà, on refuse pas de prier pour quelqu'un. Donc on a commencé à prier et là j'ai senti cet amour de Dieu qui vient et qui change ta manière de voir les gens, quoi. Et tout d'un coup, cette fille, je me suis dit, mais purée, mais pourquoi je l'aime pas? C'est pas normal. Enfin, Dieu l'aime tellement, il faut tellement que je l'aime. Et là, j'ai vraiment ressenti cet esprit d'amour qui vient et qui vous envahit. J'ai reçu des paroles pour elle, je la voyais vraiment comme quelqu'un d'hyper précieux, tout ça. Et je l'ai croisée 2 jours plus tard à l'Uni. Elle n'est pas du tout chrétienne, donc. Hein. Et je lui ai sauté dessus et je lui ai dit « Hey la dernière fois que j'ai prié pour toi, je voulais te dire, j'ai reçu cette parole pour toi. » Et je lui ai dit ce que j'avais reçu. Je lui ai dit « Mais Dieu t'aime tellement et je t'aime aussi. Et sois béni. » Elle m'a regardé un peu genre « Mais... » On dit pas ça normalement. Mais en tout cas, elle était super touchée. Et depuis ce jour, je pense que je la vois vraiment différemment. Je la vois avec cet amour qui vient de Dieu et vraiment qui ne vient pas du tout de moi, parce que je ne suis pas née comme ça, ça vient de Dieu. Ouais, que Dieu soit loué.
Merci Elisa. Donc, comme pour la force, je vais redire ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes, mais c'est la force de Dieu qui peut s'exprimer dans nos vies, et c'est l'amour de Dieu aussi qui peut s'exprimer dans nos vies. Et puis, Paul continue, et puis il rajoute un troisième mot, dans ma version, c'est le mot « sagesse ». Dans d'autres versions, ça sera « maîtrise de soi », ou il y en avait encore un que j'ai oublié de noter, désolé. Pardon ? Pondération, voilà. Merci beaucoup. Et puis donc, il ne faut pas comprendre sagesse dans le sens intelligence ou capacité à faire des études ou je ne sais pas quoi. Dans ce texte-là, il s'agit plutôt, en tout cas moi je le comprends comme ça, c'est comme on peut dire d'un enfant qu'il est sage. Si on dit d'un enfant qu'il est sage, c'est qu'il se comporte bien, il ne va pas partir dans tous les sens, il ne va pas courir partout, il ne va pas crier au mauvais moment normalement, voilà. Comme mes enfants, par exemple. Et puis, voilà, il y a cette idée de modération, comme ça, que c'est un esprit qui nous permet d'être posé, d'être tranquille, et pas de, enfin, voilà, et d'être maître de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que Paul rappelle ça ? De nouveau, hein, Paul est en train d'encourager Timothée, il veut l'encourager à persévérer, à aller de l'avant, et puis il pourrait l'encourager à foncer, voilà, tu as de la force, tu as de l'amour, et puis vas-y, fonce. Et puis, j'aimerais relever 3 choses en lien avec ça. La première chose, c'est que l'amour et puis la motivation qu'on peut avoir quand on a confiance dans la puissance de Dieu, c'est des choses qui ne vont pas forcément naturellement avec la réflexion et puis la discussion. C'est des choses qu'on ne va pas remettre en question. Ma confiance en Dieu, si quelqu'un vient et puis me dit « Mais est-ce que vraiment ?» Si on remet en cause ma confiance en Dieu, ça ne voilà, ça va pas me plaire. Ou bien si on remet en cause mon amour, j'aime quelqu'un puis j'ai envie d'agir dans sa vie et puis j'ai confiance que Dieu peut agir dans sa vie, et bien c'est indiscutable comme ça. C'est quelque chose qui va me faire foncer en avant. Et si je marche seulement avec ces moteurs-là, je risque de faire des choses inconsidérées. Et puis, si on regarde comment les apôtres fonctionnent dans la Bible, alors, ils sont pleins de force, ils sont pleins d'amour, Et puis, ils sont aussi en lien les uns avec les autres. Il y a plusieurs passages où on voit, ils débattent, ils expriment des opinions contradictoires, ils cherchent ensemble la volonté de Dieu, ils se rassemblent, etc. Et puis, de nouveau, si on reprend l'idée que Paul essaye de montrer un équilibre dans ce texte, cette maîtrise de soi, cette sagesse, elle permet à l'amour et à la puissance de s'exprimer d'une manière qui est pertinente dans la vie des gens et puis qui est efficace. Donc ça, c'était la première chose, c'est qu'on a besoin, pour que cette force et cet amour puissent s'exprimer, de se poser et puis de réfléchir, ok, dans quelle direction je vais, qu'est-ce que je fais concrètement dans la situation qui est devant moi. La deuxième chose, c'est que la sagesse, elle nous permet aussi de comprendre qu'on n'est pas... on n'est pas seul face aux situations. Des fois, la sagesse demande qu'on se remette aux compétences de quelqu'un d'autre et puis que ce soit au travers de quelqu'un d'autre que la puissance de Dieu s'exprime. J'ai juste un exemple. En tant qu'animateur, donc collaborateur des GBU, j'ai régulièrement des entretiens individuels avec des étudiants. Et puis, lors d'un de ces entretiens, un étudiant est venu et puis il n'allait vraiment pas très bien comme ça. Il était déprimé, il manquait de sommeil, il se posait des grandes questions par rapport à son avenir, enfin voilà, il allait vraiment pas très bien. Et puis, en discutant, je me suis rendu compte que c'était plus que juste un petit moment de déprime passager, et puis je pouvais le renvoyer chez lui simplement en priant pour lui, puis en lui disant « Dieu est avec toi, tout va bien aller ». Mais j'ai compris que voilà, il était un peu limite comme ça au bord de la dépression, et puis qu'il fallait vraiment qu'il aille voir un médecin, et puis qu'il en discute avec quelqu'un de compétent, de plus compétent que moi, qui ne suis pas médecin, évidemment. Et puis, sans sagesse, simplement avec ma confiance dans la puissance de Dieu et avec mon amour, ben, j'aurais pu très honnêtement prier pour lui et puis le renvoyer à la maison en disant ben, « Dieu peut agir dans ta vie et puis tout va bien aller pour toi ». Mais voilà, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai bien fait à cette occasion-là. Alors évidemment, c'est un exemple un peu caricatural. Hein. J'espère que vous êtes tous d'accord que j'ai bien agi ce jour-là. Mais ça montre un petit peu la responsabilité que Dieu nous donne. Il ne nous demande pas de porter complètement toutes les difficultés des gens qu'on voit autour de nous. Il ne nous demande pas d'agir de manière... Enfin, il ne s'attend pas à pouvoir agir de manière surnaturelle au travers de nous dans toutes les situations qui nous entourent. Mais il nous demande d'être maître de nous-mêmes et puis de réfléchir, de comprendre comment la puissance de Dieu peut s'exprimer. Et puis la troisième chose aussi par rapport à cette sagesse, cette maîtrise de soi, c'est que dans la vie chrétienne, tout n'est pas toujours rose et facile, mais il y a des difficultés. Et Paul, il en parle de manière assez développée dans le texte qu'on a lu. Et pour traverser ces difficultés, pour rester accroché avec notre confiance en Dieu et puis en son amour, eh bien, ça demande d'être solide, ça demande d'être posé et puis de savoir en quoi on croit. Et pas simplement de partir dans tous les sens et puis voilà, d'être instable. Voilà, et puis Daniela a prévu de dire quelque chose sur la sagesse, alors je l'invite à monter. Je te laisse te présenter.
Bonjour, bah ouais, c'est moi la troisième étudiante. Alors Daniela, je suis étudiante en ergothérapie et je participe au GB Santé pour les médecins infirmiers et GB de mon école. C'est un peu marrant que ce soit moi de parler de la sagesse, mais qui mieux que moi pourrait parler de ça? J'ai exactement une expérience qui va dans le sens de ce que tu viens de dire. Donc, c'était au début de mes études, et c'était la première année, et je me disais avec ma foi inébranlable du début, bah voilà, la sagesse pour moi c'est craindre l'Éternel parce que c'est le tout de l'homme. Et donc c'était tout, et j'étais sûre que j'aimais suffisamment et j'avais cette maîtrise et tout. Alors, il y a un étudiant, on va à la cafétéria, on commence à manger, le gars commence à dire quelque chose sur Dieu, une petite blague comme ça, ça me touche. Alors je commence à parler. Et notre bon débat, ça va une heure, mais on parlait fort les deux. Moi, je pensais vraiment parler avec autorité. Je dis, ouais. Là, je dis, Daniela, là, t'as du pain, toi. Mais t'as pas les dents, en fait. Je me rendais compte que ce pain, il était trop dur pour moi et il me manquait énormément de connaissances. Les gens qui me connaissent savent aussi que je suis assez rationnelle dans ma foi et il y avait une foi très très forte dedans de moi qui m'a dit, mais très fort, donc c'est pour ça que c'est quand même une expérience qui m'a beaucoup touchée et que je voyais vraiment dans le sens, qui m'a dit, tais-toi, mais fort, comment je suis restée comme ça? C'était tellement fort, mais vraiment, je tremblais sur ma chaise. Et là, j'ai compris qu'il fallait se maîtriser, il fallait se taire, c'était le moment de se taire. parce que moi, je n'avais pas les connaissances, je ne pouvais pas comprendre. Donc, c'est comme si j'avais séparé les trois parties de l'esprit, force, amour. J'avais juste pris ma partie à moi, sagesse, il faut craindre l'éternel, il faut que je te parle de Dieu, et c'est tout. Mais en fait, ce n'était pas ça. Dieu m'a demandé dans ce moment d'être en silence. Et j'ai écouté. Et j'ai écouté ce qu'il avait à me dire. Et c'était là que j'ai senti que Dieu m'a donné la sagesse et la connaissance. Il fallait vraiment de pouvoir parler à la personne de cette manière. Donc je voyais vraiment les trois ensemble, la force de pouvoir être disponible et se dire, bah voilà, je suis très timide, mais je vais quand même répondre à ce qu'il m'avait dit. Il fallait vraiment de l'amour pour écouter. Et après, c'était Dieu qui donnait toutes les paroles et ce qu'il fallait faire. Donc ça va avec tous les... Et j'ai vraiment compris que la vraie autorité, c'était en ça. J'avais plus d'autorité de cette manière. Mes paroles, elles avaient plus d'autorité que non. Au début, quand moi je parlais, voilà, je disais, je te parle de Dieu, quoi. Merci.
Merci beaucoup. Alors, voilà, les trois points se sont affichés grâce à la miracle de la technique, comme ça. Donc, on arrive gentiment à la conclusion. Et puis, dans le dernier verset du texte qu'on a lu, Paul rappelle « Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » Donc, quand il parle du beau dépôt, il parle de ce message de l'Évangile que Timothée a entendu, qu'il a reçu, qu'il doit garder. Et puis qu'il doit aussi transmettre plus loin. Et encore une fois, Paul rappelle que c'est grâce au Saint-Esprit que c'est possible. Ce n'est pas simplement par ses capacités naturelles que Timothée va pouvoir faire ça. La bonne nouvelle pour ce matin, c'est que si vous êtes chrétien, vous êtes vous-même dépositaire de ce message. Vous avez reçu ce dépôt, vous avez reçu le message de l'Évangile, vous l'avez entendu. Et puis vous êtes aussi les dépositaires de l'Esprit de Dieu dont j'ai parlé. Et puis j'ai dit tout au début du message, mon but ce matin c'est pas seulement de vous parler des belles choses qui se passent sur le campus et puis de vous montrer des beaux étudiants et voilà, de vous dire comme ils sont géniaux, même si c'était aussi un peu le but, mais mon but surtout c'est de vous encourager vous à réfléchir dans vos situations, comment est-ce que ce message peut vous influencer. Alors je vais vous inviter à un petit exercice pour conclure. Je vous invite à réfléchir à une personne que vous connaissez et pour qui vous pouvez être un Timothée, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas encore le message de l'Évangile, et puis à qui, voilà, au prix de qui vous êtes, et puis que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un qui s'est éloigné de la foi, ou bien quelqu'un qui n'a encore jamais entendu parler de l'Évangile, ça peut être un collègue, un voisin, quelqu'un de votre famille. Alors voilà, je vous invite vraiment maintenant à réfléchir à une personne, si vous connaissez son prénom, ben c'est aussi bien parce que c'est... voilà. Je pense que c'est bien aussi de réfléchir, pas seulement théoriquement comme ça, avec des gens un peu vagues, mais de réfléchir avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on arrive bien à situer. Alors voilà, j'espère que vous avez chacun une personne en tête. Si vous arrivez à penser à personne comme ça, priez pour que Dieu vous envoie des gens. Et puis, maintenant, je vous invite à réfléchir et puis à penser vraiment à ce fait que Dieu vous envoie vers cette personne en vous donnant un esprit de force. Donc la force de la résurrection, cette même force qui a vaincu la mort et contre laquelle rien ne peut résister. Et puis un esprit d'amour, un amour qui ne juge pas mais qui pardonne tout. Et puis aussi un esprit de sagesse qui sait se maîtriser et puis se taire quand c'est le moment de se taire. Et puis je vous pose simplement trois questions. Alors je vais lire les questions, après je vais prier et puis je descendrai et puis peut-être qu'on peut laisser un petit moment de silence où voilà, le président reprendra la main ensuite. Donc, pensez à cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Sachant que vous avez cet esprit en vous, comment cela peut-il s'exprimer dans votre relation avec cette personne? Quel message est-ce que vous auriez envie de lui donner? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Et puis finalement, troisième question, comment est-ce que cela peut aussi influencer votre manière de prier pour elle ou pour lui? Voilà. Alors je vais prier et puis après je propose qu'on ait un petit moment de silence. Seigneur, merci pour cet esprit que tu nous donnes, merci parce que ça ne dépend pas de nos compétences, ça ne dépend pas de nos propres forces ou de notre propre intelligence. Et, ouais, je le dis d'autant plus parce que je me sais incapable et voilà, je sais que je dépends complètement de ton esprit, de ta force, de ton amour et de ta sagesse. Et je te demande de venir nous montrer concrètement comment cela peut s'exprimer dans nos vies, dans nos situations, dans nos relations. Je te demande de vraiment nous parler concrètement et de nous montrer quels sont les prochains pas. Amen.